Vous avez remarqué? Les Jeux Olympiques et Paralympiques approchent à grands pas. Ça va être un moment génial, de fête, de célébration évidemment. Et je ne sais pas dans vos cercles, mais de mon côté, une bonne partie de mes amis parisiens préparent leurs vacances d'été et se posent la question de mettre leur appartement sur Airbnb à cette occasion. Ça pourrait financer au moins en partie leurs vacances, alors ça tombe sous le sens qu'ils y pensent. De mon côté, c'est certain, je serai à Lisbonne, donc mon appartement parisien, dont je suis propriétaire, sera sur Airbnb pour cet été, pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques. D'ailleurs, ça me permettra de financer, en partie, mes vacances. Et vous? Imaginez ce que vous pourriez faire avec ce supplément de revenus. En réalité, votre logement pourrait rapporter plus que vous ne le pensez. Découvrez combien sur airbnb.fr/hôte. C'est airbnb.fr/hôte, H-O-T-E. Allez, place à l'épisode maintenant.
Je trouve que dans cette société, on va très très vite, surtout, et c'est peut-être aussi pour ça que vous écoutez ce podcast, on a tendance à envoyer d'un tweet à l'autre, d'une petite phrase à une autre, d'un titre à un autre. Mais pourtant, ce qui est intéressant, c'est de s'intéresser au temps long, de revenir en arrière. Et peut-être que vous avez lu ce livre de Harari qui s'appelle « Sapiens, une brève histoire de l'humanité ». Aujourd'hui, je reçois un géohistorien. Et on va parler ensemble de temps long, de l'histoire, de plein de choses en réalité, par exemple l'histoire de l'esclavagisme, mais aussi l'histoire du peuplement de sapiens sur les différents continents. Vous allez voir, c'est passionnant, c'est une conversation qui est beaucoup plus longue que d'habitude, parce qu'en fait, en réalité, j'arrivais pas à ne pas être intéressé, donc je pouvais pas couper, c'était beaucoup trop intéressant pour moi. Donc je vous laisse avec cette conversation avec Christian Grateloup, qui était un professeur à Sciences Po, qui est auteur de plein de d'ouvrages, et j'espère que ça va vous plaire. Donc je vous laisse avec cette conversation. Allez Vlan, c'est parti. Donc bonjour à toutes et à tous, bonjour Christian.
Bonjour.
Vous allez bien?
Oh, fort bien. Après une conversation.
Ouais, on vient de discuter. Vous avez beaucoup d'histoires à raconter. Ça tombe bien parce que vous êtes
géohistorien. Bon, c'est un mot qui a été inventé par l'historien Fernand Braudel, ouais. Hein, pour dire en quoi on ne peut pas faire d'explication historique, de récit historique, sans penser dans un cadre géographique. Oui. L'histoire n'est pas hors sol.
Non, elle n'est pas hors sol. Et en fait, ce que je trouve hyper intéressant, c'est de voir que donc nous sommes tous la race humaine, en tout cas les sapiens.
Oui, le mot race humaine me plaît pas trop.
Non,
l'espèce humaine, les sapiens.
Ouais. On est tous partis d'Afrique pour peupler l'intégralité de la planète. Et en quoi ça explique justement ce peuplement de la planète? Qu'est-ce que ça explique, le fait qu'on vienne tous de cette région-là en tant qu'espèce?
Alors, ça explique que, en fait, ça n'explique pas grand-chose. On aurait pu partir d'un autre endroit de la Terre. Je ne pense pas que le résultat aurait été profondément différent. Ça peut juste amener un paradoxe amusant. C'est que j'ai un collègue camerounais qui aime bien dire on ne peut pas être colonisé en Afrique parce que on peut interdire à personne de revenir dans son berceau. Donc, si l'Afrique est le berceau de l'humanité, voilà. Bon, c'est évidemment une boutade. Il se trouve que les hommes ont une grande mobilité physique, comme beaucoup d'espèces, mais on peut faire 25-30 km par jour, mais enfin, il n'est pas nécessaire de se développer, de se déplacer beaucoup plus rapidement, mais ça peut sembler dérisoire par rapport à beaucoup d'autres espèces migratoires, mais néanmoins, ça permet de peupler la Terre, qui n'est pas si grande, en peu de temps. Hein. S'il existait une route qui faisait le tour de la Terre, c'est-à-dire à peu près 40 000 km, on pourrait la parcourir à notre pas régulier en 5 ans.
Donc, oui, c'est
faible. Bon, c'est pas énorme. Donc, ça peut permettre de comprendre que les sapiens aient été partout. Aient été non seulement dans l'ancien monde, ce qu'on appelle conventionnellement l'Europe, l'Afrique, l'Asie, et finalement aient pu passer en Amérique et pu ultérieurement peupler la Polynésie. Mais ce qui est plus surprenant, c'est pas la distance, c'est le fait que dans tous ces territoires, vous avez des régions extrêmement froides, là où vivent des Inuits, ou bien en altitude, par exemple des Tibétains, des régions extrêmement sèches, comme les régions désertiques, éventuellement sèches et froides, comme les steppes d'Eurasie ou les plaines d'Amérique du Nord, les prairies, comme on disait, des régions qui sont extrêmement humides, comme beaucoup de régions tropicales équatoriales, des régions qui sont au contraire tempérées. Il y a des hommes partout. Alors, en densité variable, certes, mais cette diversité ne peut se comprendre que parce que il y a eu une capacité humaine qui était de créer un milieu artificiel. Un milieu artificiel qu'ils ont déjà aménagé avec le feu, mais surtout qui se concrétise par deux choses, qui sont nos vêtements et nos maisons.
Oui, parce que ce que vous me disiez, c'est que, en fait, l'habitat naturel du sapiens, c'est une zone plutôt chaude.
Oui, réalité. C'est de la savane arborée, comme d'ailleurs une partie de nos cousins très très proches, hein, des chimpanzés ou des gorilles, qui sont soit des régions de forêt équatoriale, soit des régions de forêt ouverte, hein, de savane arborée, ce qui est tout à fait notre cas. Donc on est normalement constitué pour vivre dans un milieu avec une température moyenne entre 25 et 30 degrés, une pluviométrie variable, et là on n'a pas besoin de vêtements d'ailleurs, hein, dans ces cas-là. Et nos vêtements sont purement sociaux quand on en porte. Ils ne sont pas dus à une contrainte biologique. Mais inversement, si vous êtes Inuit, vous avez intérêt à vous vêtir de peau de phoque, vous enduire de graisse, même s'il y a quelques petites adaptations physiologiques. Par exemple, la couche de graisse sous la peau des Inuits est un peu plus élevée que sous la nôtre. Les yeux sont plus bridés parce que ça permet de résister à des vents froids. Le nez est plus écrasé pour la même raison. Donc, c'est lié à des sélections qui se sont produites parmi des populations migrantes. Mais vous avez très, très peu d'adaptations biologiques. En tout cas, ça n'explique pas la localisation des humains dans des régions qui leur sont a priori hostiles.
Et ce que vous me disiez, je trouvais ça hyper intéressant, c'est que ces différences physiques, elles sont en fait très réduites, parce qu'on parle beaucoup dans le langage courant de race, que moi, évidemment ça me crispe un peu, parce qu'il n'y a pas de race, enfin il y a les sapiens, qui est une race d'êtres humains, mais il n'y en a qu'une. Mais ce que vous me disiez, effectivement, avec votre regard sur le temps long, c'est que finalement ces différences physiques, ce ne sont pas des différences majeures.
Ah, elles sont même dérisoires. C'est-à-dire qu'on a eu tendance, pour des raisons sociales, pour hiérarchiser des humains, évidemment ceux qui l'ont fait sont ceux qui se mettaient en haut de la hiérarchie, à vouloir mettre des différences, ce qui serait des différences ensuite sociales, c'est-à-dire d'intelligence par exemple, entre des gens qui auraient une peau plus ou moins claire, un nez plus ou moins épaté, des yeux plus ou moins bridés. Non, il n'y a strictement aucune différence, la preuve en est d'ailleurs la totale compatibilité de reproduction des humains, quel que soit ce qu'on a. On ne doit absolument pas appeler des races. Race, c'est un terme strictement d'éleveur pour désigner des types de sous-espèces que l'on essaye d'identifier, les races de chiens, les races de vaches, les races de chevaux, mais c'est de la fabrication humaine à l'intérieur de transformations qu'on peut opérer par en contrôlant la reproduction de ces animaux. Parce que spontanément, si vous laissez les chiens se reproduire sans contrôle, vous aboutissez à un chien unique, qui ressemble d'ailleurs au dingo australien, que sont le chien jaune, qu'on va trouver absolument partout dans les régions où les chiens sont un peu à l'abandon, dans des régions pauvres, hein, essentiellement, et qui est le même type de chien, de taille moyenne, de couleur brune, jaunâtre, et qui est une sorte de moyenne des changements. Bah, les humains sont très largement, d'ailleurs, une sorte de moyenne en fonction des oppositions. Et les oppositions de race qu'on a inventées, c'est en grande partie pour pouvoir maintenir des hiérarchies, en particulier, par exemple, pour justifier l'esclavage noir. C'était largement une justification idéologique de quelque chose qui était strictement une utilisation pratique d'un élément économique qui était la plantation.
Et alors justement, on va revenir sur l'esclavage, mais je voudrais qu'on reparte encore plus loin sur le fait que Christophe Colomb a découvert l'Amérique, par exemple, ou sur les navires et les voyages qu'ont pu faire les humains sur la planète. Vous parliez, et je trouve ça hyper intéressant, des Polynésiens. En fait, les Polynésiens, on y pense, on n'y réfléchit pas, en fait, de manière assez générale, alors qu'en réalité, c'était des grands voyageurs.
Oui, les sociétés polynésiennes sont des groupes humains qui ont connu une aventure absolument extraordinaire, puisque il suffit de penser au fait que les îles du Pacifique étaient presque toutes peuplées. Elles étaient pratiquement toutes connues des Polynésiens qui savaient naviguer, qui allaient de Tahiti aux Hawaï, par exemple, hein, ça fait quand même dans les 2000 kilomètres, qui pouvaient naviguer sans problème et sans se tromper. Ils avaient d'ailleurs des cartes. Ils avaient construit une cartographie qui ressemblait pas du tout à la nôtre, qui était une cartographie fondée sur la mer et pas sur la terre, qui leur permettait tout à fait de naviguer. Mais l'essentiel de leurs cartes était dans leur tête, hein, étaient des connaissances que les maîtres de navigation avaient. Or, les Polynésiens, c'est un groupe qui est originaire d'Asie. Alors, c'est un groupe linguistique, hein, je ne parle pas de race, hein, c'est un groupe linguistique dont la forme, le lieu le plus ancien qu'on connaisse, c'est l'actuelle île de Taïwan, qui n'a été devenue chinoise que très tardivement, hein, au XVIIe siècle, lorsqu'il y a eu une invasion chinoise. Mais il existe encore aujourd'hui en Polynésie, sur la côte est pour l'essentiel, des groupes autochtones, on peut dire, qui parlent des langues polynésiennes. Ils sont devenus très, très minoritaires.
Hein. Et ce que vous me disiez, c'est que Madagascar a été construite aussi à l'origine par des Polynésiens, c'est ça ?
Alors, la langue malgache actuelle est une langue de famille polynésienne. On considère, alors on n'a pas évidemment de texte, mais les anthropologues qui ont travaillé sur les migrations dans l'océan Indien considèrent qu'il y a sans doute eu deux grands mouvements d'Asie du Sud-Est vers Madagascar, au 3e ou 4e et au 8e siècle de notre ère, qui ont amené à plusieurs vagues migratoires. Alors ensuite, ces populations originaires d'Asie du Sud-Est se sont mélangées avec des populations venues un peu plus proches, mais c'est quand même pas tout près, de l'Afrique continentale. Puis ensuite, il y a eu ensuite d'autres apports indiens, arabes qui sont arrivés aussi. Mais enfin, la structure fondamentale de la société polynésienne dans ses racines religieuses, dans ses pratiques agricoles, par exemple la riziculture, c'est une région de riziculture inondée, sont originaires d'Asie du Sud-Est. Donc si vous allez de Madagascar jusqu'à l'île de Pâques et même probablement jusqu'en Amérique, parce que vous avez des liens, ce que la diffusion de l'arbre à pain montre, vous avez à peu près les deux tiers du tour de la Terre. Donc à côté, les quelques, bon, mettons 2000 kilomètres à peu près qu'a pu parcourir Colomb, et encore avec des étapes aux Açores, c'est dérisoire par rapport à ça. Et les Polynésiens, ils ont bien fait comme Colomb à un moment donné, ils sont partis à l'aventure sans savoir exactement où ils allaient. Et je pense qu'une des grandes dates de l'histoire de l'humanité, c'est tout début de notre ère. Ce n'est pas une date précise, c'est disons, au premier siècle de notre ère à peu près, où on a inventé la pirogue à balancier, la pirogue de haute mer, qui permet non plus de naviguer comme en Asie du Sud-Est ou en Micronésie, d'île en île, presque à vue, mais de pouvoir se lancer sur des milliers de kilomètres. Et où, dès qu'on avait les découvertes avaient été faites, eh bien, on savait où on allait.
Et alors, il y a une question que je me pose, et je pense que plein de gens se la posent, mais on sait que donc les Polynésiens voyageaient beaucoup, on sait que les Chinois allaient beaucoup en Afrique pour faire du commerce. Alors j'ai pas la période en tête, c'est vous l'historien, vous allez pouvoir me dire, mais ils voyageaient en Afrique, et à aucun moment, en fait, les Chinois ont essayé d'envahir l'Afrique. Et pourtant, les Européens... quand ils ont voyagé, ils ont voulu conquérir d'autres peuples, donc les Amériques,